Salut à tous, c'est Ashraf de l'Homme en Forme, le podcast dédié à vous, leader moderne, pour vous aider à prendre en main votre hygiène de vie et vivre avec le corps, l'énergie, la santé durable que vous désirez et que vous méritez. Et aujourd'hui, on va découvrir comment booster votre énergie et votre force mentale grâce au froid. Avec Jean-François, qui est coach mental et qui a la particularité de jeter les gens dans la glace. C'est bien ça, Jean-François?
Ouais, c'est ça. Dit comme ça, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais ouais, mon activité consiste à immerger les gens dans la glace jusqu'aux carotides, voilà, plusieurs minutes. Pour leur faire prendre conscience, comme tu le mentionnes, très très rapidement et beaucoup plus efficacement qu'avec d'autres méthodes plus traditionnelles ou conservatrices, de beaucoup de choses qui leur seront très utiles dans la vie. Voilà.
Alors, bon, c'est prometteur. On va donc développer tout ça avec Jean-François qui va nous raconter son histoire, sa transformation grâce au froid, comment il aide également les personnes à se transformer grâce au froid. Il est aussi l'auteur d'un livre qui est tout récemment sorti, qui s'appelle « Le froid m'a sauvé », qui est disponible aux éditions Larousse. On aura l'occasion aussi d'en reparler. Jean-François, JF, t'es OK si je t'appelle JF?
Oui, je suis OK si tu m'appelles JF.
Super. Je te laisse en quelques mots nous raconter un petit peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach, par exemple?
Moi, je sors d'un parcours classique école de business. Voilà, dans ma jeunesse, j'ai suivi les rails. J'étais à l'ESSEC et puis j'ai commencé à me balader de boulot en boulot sans être vraiment satisfait de ce que j'y trouvais. Et puis, j'ai bourlingué pas mal à l'étranger, fait quelques dizaines de pays en tant que public reporter, finalement, que j'ai commencé un petit peu déjà à migrer, à changer de voie. Mmh. Après cette expérience, été confronté à « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens autour des bases parisiennes? Est-ce que je continue de vivre de bourlinguer à l'étranger ?» Et puis, bon, voilà, ça devait être la trentaine, tu vois. J'ai eu envie d'avoir une femme, un chien, un prêt immobilier, des responsabilités, me calmer. Donc, je me suis rapatrié en France, voilà, comme tout le monde, et cherchais qu'à celui de pouvoir faire. Et puis, étant donné mon parcours, j'ai trouvé des opportunités pour commencer à coacher des expatriés. Donc voilà, des cadres sup qui partaient s'expatrier en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, dans l'un des pays où j'avais pu exercer moi. Ouais. Et ça a été ma porte d'entrée en fait dans ce monde de l'accompagnement, on va dire. Donc contre avantage, je suis pas du tout entré par l'angle sportif. Moi, ça a vraiment été sous l'angle des cadres sup de boîtes qui prenaient des responsabilités dans des filiales à l'étranger. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à les coacher sur d'autres problématiques que leur adaptation à un environnement étranger, des problématiques de management, des tensions avec le siège à l'étranger du fait de la distance, des difficultés des formes de management actuelles qu'on peut retrouver dans les entreprises complexes d'aujourd'hui. Donc, je commençais à étoffer un petit peu, on va dire, le domaine d'intervention sur lequel je faisais ce coaching. Et puis, petit à petit, j'ai continué de migrer comme ça. Je suis devenu progressivement conférencier, plus encore que coach, afin de pouvoir toucher directement les comités d'entreprise et les dirigeants. Je trouvais ça finalement plus efficace, ça avait plus d'impact et plus de retombées sur l'organisation de façon globale. Et puis, j'ai quand même été frappé de voir à quel point ces gens qui sont extraordinairement efficaces, extraordinairement structurés, très intelligents, très très pointus, sont complètement à la masse sur certains basiques, et à quel point ils n'exploitent pas des leviers qui pourraient tout transformer dans leur façon d'apprendre les choses et même dans leur efficacité au travail. Et c'est là que je te rejoins, et là on parle de choses très très basiques comme la façon dont ils prennent soin de leur corps, parce que c'est comme si cette intelligence hyper pointue s'accompagnait d'une croyance enfantine dans une séparation hermétique entre la force de leur esprit et l'énergie qu'ils ont disponible dans leur corps. Et donc ils sont fermés dans une perspective cartésienne, et là, je veux pas les dénoncer ou les accabler, moi, je suis un cas pathologique de ça, à la base. Et le moment où j'ai le plus vraiment réalisé à quel point il y avait un angle pour eux à travailler cette dimension corporelle, c'est quand moi-même, en mettant le petit doigt dans l'engrenage du froid, j'en suis venu à comprendre en l'espace d'à peine, alors avec le recul quelques années, mais déjà ne serait-ce que quelques minutes d'exposition au froid, m'ont fait prendre conscience de trucs que je m'entêtais à ne pas voir depuis 40 ans. Parce que le choc du froid est tel qu'il te ramène obligatoirement au fait que si l'esprit et le corps travaillent pas de concert, c'est mort. Ou en tout cas, ça va être extrêmement douloureux. Et donc voilà, j'ai petit à petit migré aujourd'hui ma pratique vers un accompagnement qui se fait plus au niveau corporel, toujours pour des gens qui sont. Alors j'ai élargi aussi. Ce ne sont plus que des cadres, des entrepreneurs. C'est vraiment juste des gens qui sont simplement à la recherche d'outils simples, concrets, pragmatiques pour être moins stressés et plus épanouis au quotidien dans leur vie. Mmh. Mais j'ai aujourd'hui bien sûr encore des comités de direction ou des cas de sup ou des entrepreneurs qui viennent, que m'envoient d'autres coachs qui travaillent avec moi pour les faire travailler, ou quand les mecs ils sentent que bon, ces gens-là ils sont très intelligents mais ils sont vraiment un blocage au niveau de la cravate, quoi, il va falloir travailler ce qu'il y a en dessous. Ben là, c'est une façon aussi, je pense, extrêmement simple, visuelle et vraie de travailler. C'est-à-dire que là, on va pas se mentir, quoi. C'est quand ces gens-là qui sont habitués à la performance et à tout ça, on leur offre la possibilité de constater en milieu réel, anxiogène, difficile, parce qu'il ne s'agit pas de juste s'étaler sur un tapis de yoga et se dire que ça va aller, on va respirer. Là, il s'agit de se confronter à une situation de vie ou de mort, le froid extrême, et de voir que soit on applique les outils que je présente et tout se passe hyper bien, soit pas, et dans ce cas-là, ça se passe hyper mal. Ben, le feedback fait que ces gens-là étant intelligents, ils apprennent extrêmement vite à réutiliser ces leviers qu'ils sous-exploitent depuis des décennies.
D'accord. Qu'est-ce qui… Tu nous disais que cette expérience, ce rapport avec le froid, aussi brutal que révélateur pour toi, en fin de compte, a transformé quelque chose en toi et transforme aussi les personnes que tu accompagnes. Comment ça s'est passé exactement, si tu peux nous en dire plus ?
Oui. Alors, au début, ça avait rien de ça. Ça a rien été. Ça a absolument pas été une dimension philosophique qui m'a amené à ça. En gros, j'étais un peu en crise de la quarantaine. Ouais. Bon, on va dire que j'avais pas eu une année 2016 géniale. Et donc, le 31 décembre, après quelques bouteilles, une fois que tout le monde est terminé et est parti se coucher, je me demandais ce que j'allais pouvoir foutre en 2017, histoire de faire en sorte que ça se passe mieux. J'ai commencé à me donner, tu vois, comme on se fait souvent dans le coaching, tiens, je vais me donner des objectifs pour cette année. Et puis l'objectif, je me suis dit non, c'est un petit peu chiant les objectifs, plutôt me donner des défis, quoi, des trucs qui me paraissent complètement irréalisables, irréalistes, mais au moins ça me fera marrer d'essayer d'aller les conquérir, ça sera plus motivant. Et j'ai enchaîné ma petite liste à la Prévert de qu'est-ce que je vais me faire cette année. Donc des objectifs, tu vois, de santé, de finances, de multiplier par 10 mes revenus, etc. J'étais là à me demander, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment, au-delà de ces petits objectifs un petit peu bourgeois, de, tu vois, toujours sécurité financière, aller améliorer un petit peu ma physiologie générale, qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire plaisir? Et là, j'ai eu un tilt sur, tu vois, un podcast que j'avais entendu quelques mois auparavant. Sur un Hollandais, un mec à moitié fou qu'on appelle Iceman, donc l'homme de glace, pour Wim. Sa capacité Wim Hof, c'est ça, un Hollandais qu'on appelle Wim Hof, qui commence à être connu maintenant en France parce que les émissions grand public ont tendance à se multiplier récemment sur lui, même s'il n'est pas du tout, il n'a pas du tout ici la même notoriété qu'en Hollande ou en Allemagne. Et donc ce type détient, en tout cas, ce que je découvre dans ce podcast, c'est que ce type détient 26 records du monde d'exposition au froid extrême. C'est-à-dire, il se gravit l'Everest en short, il fait des marathons sur le cercle polaire pieds nus, il reste immergé 2 heures dans la glace, enfin, une espèce de fou furieux, quoi. Et donc, ce type décrit le fait que ce qu'il réalise, en fait, tout le monde est à peu près capable de le faire dès lors qu'on arrête de se mettre des barrières mentales et qu'on reconnecte à son corps et qu'on se rend compte du potentiel d'énergie absolument hallucinant qui est complètement inexploité parce que on a tellement peur de l'inconfort qu'on se réfugie dans une zone de confort qui s'atrophie, mmh. jusqu'à nous rendre vraiment, jusqu'à complètement asphyxier notre potentiel de vie et d'expansion. Et donc, bon, ce truc m'amuse. Faut dire qu'il parle avec un anglais approximatif, que c'est pas toujours très clair ce qu'il dit, mais en tout cas, le personnage est très fantasme, c'est très amusant. C'était resté bloqué dans un coin de ma tête comme ça. Je me suis dit, ah ouais, ça va être sympa, faut vraiment essayer ce truc-là. Et là, j'ai cliqué et je me dis, ah putain, c'est l'année ou jamais. Et donc, je me donne comme défi le fait de dire, allez, je vais m'immerger dans la glace moi aussi, à 0 degré, comme ça, une minute. Et ça me paraissait à l'époque, mais genre, ça, c'est impressionnant, c'est horrible. Je vais être en souffrance déjà, moi, tu vois. A priori, ouais. Rentrer dans l'eau quand elle est à 20, bon, ça va, mais c'est genre, je préfère quand elle est à 27. Je me suis dit, bon, on ne s'est pas gagné, quoi. Et donc, je me suis donné ces défis-là. Et je me suis dit, comme le lendemain, dès que tu auras un petit peu dessoulé, évidemment, tu vas mettre ça sous le tapis et tu oublieras, bah, tiens, tu vas les publier sur Facebook, comme ça, tu seras bien attrapé derrière et ton ego aidant, bah, tu seras obligé de moins. Te bouger pour essayer d'aller accomplir ce à quoi tu t'es engagé publiquement. Et donc, je me suis retrouvé le 1er janvier de nouveau sobre, effectivement, à dire « qu'est-ce que tu as fait ?» Effectivement, ok, il va falloir… Et donc là, par peur, je me suis dit « bon, maintenant, il va bien falloir que j'essaie d'acquérir une méthode qui me permette de faire ça. » Donc, il va falloir que tu ailles voir ce type-là, puisqu'il propose une méthode, la méthode Wim Hof. Et donc, j'ai booké mon billet d'avion et je suis parti m'inscrire pour un stage d'une semaine dans les montagnes polonaises avec Wim, à la découverte de donc, voilà, comment est-ce qu'on peut effectivement utiliser le froid extrême et d'autres techniques connexes pour reconnecter à son corps et booster complètement son énergie, son potentiel de vie et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage.
Super. On voit d'ailleurs quelques vidéos, j'ai été faire mon curieux sur ton site icemind.fr. On voit quelques vidéos de cette aventure-là.
Ouais, il y a des moments mémorables, tu vois, le moment.
Donc il y a la preuve, hein. C'est pas voilà.
Oui, c'est ça, c'est la preuve par l'image. Ouais, c'est effectivement que des choses où quand elles sont énoncées comme ça paraissent absolument loufoques ou en tout cas peuvent faire peur. C'est tout l'objet aussi, c'est de se confronter à son anxiété. Et au final, quand on y est, on se découvre qu'on est tout à fait capable de faire ça. Et donc notamment, voilà, il y a déjà ces premières immersions. Dans les cascades glacées en Pologne, où c'est vrai que quand il fait moins 15 dehors et que tu prends ton marteau, tu vas briser la glace et tu rentres dans l'eau, bon, effectivement, ça pique, hein, mais
et finalement. T'es tout de suite dans le bain, c'est-à-dire que t'es en caleçon tout de suite ou il y a une progression qui se fait, une adaptation
Non, t'es direct, quoi. Moi, je pensais, si tu veux, quand j'étais là-bas, je me suis dit, ok, bon, on va nous mettre un programme. Et au terme d'un long parcours didactique extrêmement bien structuré, on en viendra peut-être au moment paroxysmique où, au bout de 5 jours, on pourrait éventuellement s'immerger dans l'eau glacée et ce sera génial, quoi. Première matinée, on débarque, la tête encore, tu vois, un petit peu, je sais pas, on est où. Donc, prenez votre petit déj, on y va, on descend, quoi. La rivière est en bas, c'est parti. Hein, quoi, mais il y a pas eu des techniques. Non, c'est bon, vous prenez pas la tête, juste, on y va, ça marchera. Et effectivement, alors ça se fait dans la douleur la première fois parce que c'est dur de se calmer, c'est dur de s'apaiser, etc. Mais ça se fait malgré tout. Et après, effectivement, il y a une progression, mais la progression, c'est le corps qui s'adapte progressivement. Mais c'est pas, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses extrêmement pointues qui ne peuvent s'approprier que très au terme d'un parcours très progressif avant de faire ça. Alors, on habitue nos corps et c'est vrai qu'au bout de, au bout de quelques jours, donc très rapidement, hein, le 5e jour, il y a ce grand moment ontologique, formateur, symbolique, l'ancrage psychologique où tout le groupe se met en caleçon, en maillot de bain, quoi. On garde les chaussures, hein, et on escalade le mont Snieska, qui est le mont le plus vanté d'Europe. Et donc voilà, on a du petit moins 10, moins 15, les rafales de vent parfois à 50-60 km/h, et pendant plus de 2 heures, on gravit par une température ressentie de moins 20, moins 25 degrés. Cette montagne jusqu'au sommet. Et donc là, il y a toujours les visages éberlués des touristes emmitouflés dans leur Canada Goose et leur chapka qui regardent comme des fous. Parce qu'on est donc un groupe de 25 à circuler en slip, à respirer très bruyamment, puisqu'on applique certaines techniques de centration mentale et de respiration pour tenir le choc. Mmh. Et qui nous croisent joyeux de riz, en train de souriant dans la neige, en slope, jusqu'au sommet.
Dans cette expérience, on va appeler ça comme ça, quelles difficultés tu as rencontrées? Quel moment c'était galère? Qu'est-ce qui vraiment t'a...
Eh ben, curieusement, ce ne sont absolument pas les moments les plus, objectivement les plus durs physiquement qui se sont révélés être les plus galères. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu physiquement et objectivement un moment... Un moment extrêmement dur qui était le moment où au détour d'un passage de la montagne, la caprice du climat, le ciel s'est assombri, la tempête de neige s'est levée et là on était face à des rafales de vent monstrueuses et là objectivement on était en enfer. C'est-à-dire que tu vois, c'était ambiance peloton du Tour de France. Bah, le groupe s'est complètement disloqué en fonction des vitesses de marche. Nous, on était resté un groupe de 5 sur le peloton de tête. Et donc là, chacun prend à son tour la tête du peloton, reste 5-6 secondes et puis il se rabat derrière. Et tu vois, c'est comme les oies sauvages ou les coureurs, quoi. Tu t'opères en rang serré, tu peux tenir quelques secondes parce que t'es fouetté par le vent. C'est un enfer, t'es à poil. Et là, on se demande vraiment, est-ce qu'on va y arriver? Mais tu te centres et tu es galvanisé par le côté justement extrême et par le fait que tu es déjà là, tu vois que tu tiens, tu vois que tu te centres sur ta respiration et ça arrive à tenir la baraque. Et cette espèce d'autodiscipline mentale fait que le corps suit. Et au final, c'est plutôt un moment galvanisant qu'autre chose, même si tout pourrait conspirer au fait que tu abandonnes et tu remballes. Et donc là, c'était hyper grisant de voir que waouh, ça tient. Et en contraste de ça, il y a eu deux moments hyper durs et qui pour moi ont été très très marquants et ont été porteurs d'une grande leçon pour la suite. C'est la sortie du car, le premier moment hyper dur. C'est-à-dire la sortie du car, c'est le moment où tu es habillé dans le car s'arrête au pied du début de la marche et tu dois sortir et te dessaper. Et il n'y a pas encore de vent, il fait beau, mais il fait déjà un petit moins 12 degrés. Et quand tu te vois de toi-même, de ton propre chef, abandonner tes couches de manteau et de pull et d'écharpe, les unes après les autres, jusqu'à te retrouver en slip, et que là, tu commences à grelotter, t'es transi de froid, c'est horrible. Et tu te dis, là, c'est au bout de 10 secondes, il n'y a pas encore le vent, il fait beau, il y a du soleil, et on en a pour 2h30, on va passer par des passages immondes. C'est évident, on a fait une erreur, on remonte dans le car, c'est plié, c'est pas la peine. C'est-à-dire que la projection mentale que tu te fais du fait que ça va être une souffrance linéaire équivalente à celle-là et qui fait fi du fait que le corps va s'adapter, que petit à petit, tu vas rentrer dans une dynamique, que tu vas avoir plein de mécanismes adaptatifs qui vont t'aider. Ben, quand tu es dans la projection mentale, finalement, quand tu restes sur la ligne de départ et que tu essaies d'évaluer objectivement, est-ce que tu as la capacité à faire face à l'épreuve? La réponse est toujours non. Et donc, le piège de ton mental, c'est de surjouer la difficulté parce que ton mental, il est fait hérité de l'évolution pour te protéger de tout ce qui pourrait arriver de négatif. Donc, il est extrêmement conservateur. Et donc, le fait de se retrouver face à ça et de voir le différentiel qu'il y avait eu entre ce dont je me croyais capable et ce dont j'étais objectivement capable, ça a été riche d'enseignements pour la suite. Et le deuxième... Pardon, ouais.
Non, je t'en prie, vas-y.
Et le deuxième moment le plus dur, paradoxalement, c'est le moment où on se rhabille. Parce que pour les mêmes raisons. C'est fou, tu vois que tu es capable de tenir pendant finalement 2h30 par moins 20 degrés. Et à la fin, tu ne sens même plus le froid. Tout va bien, tu avances, tu es dans un rythme, tu es dans une forme méditative où tout ton mental est centré, où tout est connecté. Et à l'instant où on te dit « Ok, bravo les mecs, c'était top, vous avez assuré. Maintenant, on va taper 2-3 photos de groupe et après, on pourra se rhabiller. » À cet instant où tu sais que finalement, c'est fini et tu vas pouvoir te reposer sur des fringues ou sur le fait que tu vas pouvoir te mettre dans le refuge pour conserver ta chaleur interne et que tu n'as plus besoin de finalement rester centré et concentré pour faire ça, et ben là d'un seul coup tu pars en crise de mini panique, tu as froid, tu trembles et on est tous partis limite en tétanie et en l'espace de 15 secondes tout s'est disloqué et les 4-5 minutes qui ont séparé le moment où on a pris la décision de se rhabiller et le moment où nos mains tremblantes ont pu effectivement parvenir cas à nous remettre des couches de pull qu'on avait dans nos sacs à dos dessus et qu'on est rentré dans le refuge, on a pu constater qu'on avait beau avoir après 6 couches dessus et être à l'intérieur, on grelottait et on était tremblant de froid parce qu'on avait on avait lâché quoi. On avait arrêté de se considérer comme responsable de ce qui nous arrivait et on se remettait à une source exogène pour essayer de se rassurer. Et donc ça a été très très parlant de voir aussi à quel point il y a absolument rien d'objectif dans, enfin si, j'exagère, mais en tout cas, disons que on attribue à des facteurs objectifs de difficulté notre capacité à se considérer capable ou pas de faire quelque chose, alors que c'est vraiment dans comment est-ce qu'on va aborder les choses et dans quelle disposition mentale et à quel point est-ce qu'on va être à l'écoute de son corps qui vont vraiment faire la différence. Donc c'est toujours c'est une responsabilité personnelle.
C'est beaucoup une question de perception, une manière de percevoir aussi la difficulté à venir. Et que, voilà.
Ouais, c'est vraiment une question de discipline de perception. Libre à toi de te centrer sur les problèmes ou sur ce qui va bien. Libre à toi de te dire que mes pieds sont congelés, c'est une horreur, ou de constater que les organes sont protégés et qu'à l'intérieur, tu sens ton cœur battre à rythme normal, tu n'as pas de pression artérielle anormale, tout va bien. Et donc, c'est comme dans la vie. Est-ce que c'est pas du tout une approche de culpabilisation des gens, voilà, vous devriez, bande de cons, vous bougez le cul, arrêtez de vous plaindre, etc. C'est pas ça. On ne peut être qu'en empathie avec le fait que quand une tuile nous tombe sur la figure, la première réflexe est de se sentir accablé. Simplement, ce qui va vraiment aider, c'est de constater que libre à nous de percevoir ce qui va nous remettre dans le sens de la marche, quoi. Et là, c'est ce à quoi on est confronté dans le froid, parce qu'à l'instant où on faiblit sur la dynamique et sur la discipline de perception, ben on souffre. Donc on constate que s'apitoyer, se réfugier dans c'est pas ma faute. Peut-être c'est vrai, mais ça aide à rien. Donc au bout d'un moment, ne serait-ce que par le mécanisme de souffrance, ben on se reprend et on se remet dans le sens de la marche et on discipline sa perception. Et donc ça, c'est une excellente façon très pragmatique de connecter à tout ce que nous enseigne le stoïcisme, le bouddhisme depuis des millénaires.
Ok. Des philosophies particulières qu'on en reparlera probablement dans d'autres émissions. Moi, ce que j'aimerais savoir, JF, c'est que ce que j'aimerais comprendre, c'est que en fin de compte, cette situation, cette expérience extrême, tu me la décris vraiment comme une expérience à part entière, mais qu'est-ce que ça a changé en toi depuis ? Est-ce qu'il y a eu un changement brutal du jour au lendemain, ou est-ce que petit à petit, tu t'es rendu compte qu'il y avait des ressources en toi et qu'au fur et à mesure, tu les développes ? Dis-nous ça.
En fait, ça a été plusieurs changements successifs. Et je pense que ça reflète assez, d'après ce que me disent les personnes avec qui je travaille, les personnes que je coach aujourd'hui, le genre de changement qu'on peut tous ressentir au contact du froid. Le premier changement qui est immédiat, systématique, c'est le niveau d'énergie et de vitalité. Parce que tout simplement, en réexposant notre corps à des stimuli extrêmes qui vont immédiatement l'obliger à aller chercher ses ressources et ses capacités adaptatives, et bien c'est comme si on relançait une machine qui s'était endormie depuis longtemps et qui était atrophiée par la sous-stimulation. Et d'un seul coup, notre corps reprend ses droits et va rechercher tous les mécanismes qu'il a toujours su utiliser pour produire l'énergie et la vitalité qui sont nécessaires pour faire face notamment au froid extrême. Et donc, d'un seul coup, de remettre cette machine en route, eh ben, l'énergie au quotidien, le fait de plus être malade, le fait de se sentir péter la forme, d'avoir juste beaucoup plus de vitalité générale, voilà, ça c'est n'importe qui, on peut faire l'expérience hyper simplement. Vous mettez à la douche froide au lieu de la douche chaude pendant 4-5 jours et vous pourrez observer à quel point la vitalité pète. C'est enfantin.
Voilà, je peux témoigner parce que j'étais, d'ailleurs il va falloir que je m'y remette, et j'étais adepte de la douche froide pendant un certain temps, et je peux vous garantir qu'il y a une vraie transformation qui se fait, mais immédiate. C'est-à-dire que ne serait-ce que, comme disait JF, le fait de rester une minute, déjà une minute c'est bien, deux minutes je crois qu'on est déjà pas mal, il y a des transformations importantes qui se font, et il y a surtout une notion de courage aussi, on se sent plus courageux, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi.
Ouais, absolument. Donc, si tu veux, il y a vraiment parmi les transformations, la première qui est vraiment sans avoir besoin de bouger une oreille juste en faisant ça, elle est directe, c'est toute énergie et ta vitalité. La deuxième, c'est au niveau du courage face à l'obstacle. C'est-à-dire que c'est un très puissant ancrage psychologique que de se voir soi-même défier, alors lors d'un grand moment comme ça, ontologique, comme le bain de glace ou l'escalade d'une montagne, mais après à tout simplement au quotidien les micro-gestes que sont la douche froide ou la sortie en t-shirt bain froid, ce genre de choses, ben, constamment, tu as la preuve indéniable que tu es capable de faire preuve de courage, te confronter à l'obstacle et sortir vainqueur de cette confrontation à l'obstacle.
Et donc, là, je dirais, c'est même physiologique, c'est-à-dire que c'est même au-delà de notre volonté. C'est-à-dire que même si on pense ne pas être courageux, on le sera quand même parce que physiologiquement, il se passe quelque chose.
C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes qui me disent « Mais moi, j'ai une relation pathologique au stress. Un coup de klaxon et je monte dans l'arbre. Je ne suis absolument pas capable de gérer mon stress. » Et quand cette même personne, une heure plus tard, constate que, alors qu'elle est hyper frileuse, elle est en train de taper des blagues et de tenir parfaitement la route plusieurs minutes immergée jusqu'au cou dans la glace à 0 degré, eh ben, en termes d'ancrage psychologique, elle ne peut plus se raconter qu'elle n'est pas capable de gérer le stress. C'est plus vrai. C'est plus crédible. Voilà. Donc, il y a un phénomène de dissonance cognitive qui fait qu'elle est obligée de constater qu'elle s'est racontée. Elle a eu une auto-narration sur elle-même qui pouvait être pratique parce que ça permettait de la maintenir dans sa zone de confort. Mais oui. Pour autant, c'est un mensonge. Et donc, elle va devoir être obligée de réorienter sa vie à partir de la base qu'elle a constatée aujourd'hui. C'est que c'est une personne courageuse. C'est que c'est une personne qui a des capacités, qui a ses moyens. Et donc, cet ancrage et ce basculement psychologique, c'est une des autres transformations qui ouvre une porte sympa derrière. Et je dirais que la porte suivante, la troisième porte au-delà de l'ancrage psychologique, ça va être tout ce travail que je vais appeler de force mentale, c'est-à-dire au sens la capacité de concentration, de résistance, de résilience. Parce que petit à petit, on va apprendre, tu le mentionnais, tu vois, on va rester une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, dix minutes sous la douche froide. Et qu'est-ce qui va faire ça? Eh bien, ça va être le fait de permettre d'être capable de centrer son attention, de discipliner sa perception, de rester concentré face à l'obstacle. Donc, on va se trouver des terrains de jeu, des terrains d'entraînement sous différentes formes de froid et de différentes techniques de respiration qui vont permettre d'entraîner le muscle, finalement, de la centration, de la concentration, de la force mentale. Et donc, on va devenir plus résistant et plus résilient. Et ça, c'est très, très utile. Et j'ai pu l'observer, moi, chez moi, où justement, quand je m'étais fait cette petite blague de me donner 10 défis en début d'année, au retour de Pologne, donc j'ai 1er janvier, je me donne ces défis-là. Le 10 février, j'étais en Pologne pour ce stage avec Wim Hof. Le 15, j'étais de retour, en gros. Et dans les 2 mois qui ont suivi, je les ai pas tous faits. Hein, je me suis pris des énormes gamelles et des gros bouillons sur certains, mais j'ai commencé à abattre ces trucs qui me paraissaient complètement hors de ma portée. Dont certains étaient débiles, complètement égotiques, mais juste en tout cas hors de ma portée, et j'ai commencé à les décaniller les uns après les autres parce que j'étais en mode, j'étais un petit peu avec les aspects négatifs de ça aussi, hein, mais en tout cas j'étais en mode un petit peu bulldozer et l'obstacle me faisait tellement plus peur, j'étais tellement plus à me poser des milliards de questions sur la grille de départ, est-ce que j'en étais capable, est-ce que non, juste ok, t'y vas. T'as bien vu, c'est pas la même chose avec la douche, c'est la même chose avec l'escalade des montagnes, c'est la même chose avec le bain. Juste, y vas, t'ajustes, t'adaptes, tu te prends pas la tête avec des questions inutiles. Tu réfléchis, moi, c'est utile de réfléchir, mais surtout, tu fais preuve de courage, tu fais preuve, de ténacité, et ça va passer. Et c'est vrai que c'est une forme de, moi, je me connaissais pas comme ça, moi qui étais très intellectuel, très hésitant, etc., où là, j'étais un peu en mode rouleau compresseur, et ça fait, même si c'est un peu bourrin, une fois de plus, ça fait quand même beaucoup de bien de se voir libéré de tous ces poids qui, quand on intellectualise beaucoup, font qu'on passe son temps à stresser sur la ligne de départ, quoi.
Donc, ce rapport au froid t'a apporté, si j'ai bien compris, une transformation physique en termes d'énergie, notamment, énergie constante, et aussi une augmentation de la force mentale à partir du moment où un peu plus de détachement par rapport aux situations stressantes, c'est bien ça?
Je dirais, techniquement, c'est par rapport au challenge. Par rapport au challenge, par rapport aux objectifs que je me donne moi, c'est-à-dire non pas les situations que je prends dans la gueule parce que j'ai pas choisi, mais genre je me donne un objectif, j'ai une envie, une ambition, seulement elle est dure à réaliser. Et ben la capacité à mettre tous les moyens au service de cette ambition et à pas me laisser déstabiliser par les obstacles, les difficultés que je vais rencontrer en chemin, ouais, ça c'était flagrant et je le vois avec les sportifs de haut niveau que j'entraîne également. Ben c'est le même genre de bénéfice qui tire de ça parce que je dirais c'est assez intuitif, surtout quand quand on est un mec de 30, 40 ans, qu'on est un petit peu entrepreneur, ambitieux, on a déjà ce cadre de référence-là. Et donc là, c'est un outil qui nous permet d'y aller à fond, quoi. Et donc, c'est libérateur. Et ça, c'est très chouette. Et donc, ça a été la, je dirais, la grande transformation suivante. Hein. La première, c'était vraiment sur l'énergie pure. La deuxième, ça a été cet ancrage psychologique, cette capacité à vraiment confronter les obstacles. Et puis après, quand même, j'ai atteint, on va dire, les limites de l'exercice. À savoir que voilà, j'étais hyper galvanisé par le fait que voilà, petit à petit, donc moi je m'étais donné comme objectif de tenir 1 minute dans la glace, puis après c'était 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et puis finalement 20 minutes, 25 minutes immergé dans la glace, donc normalement je devrais être mort, tu vois, et puis je sortais de là et j'étais, ouais, putain, je suis capable de faire des trucs, mais genre, bon, c'est pas Wim, hein, mais des trucs inhumains, quoi, et donc t'es galvanisé, tu vois, t'es un surhomme, je suis Superman. Mais alors ma femme, hein, qui est souvent la personne la plus intelligente dans le couple, m'a quand même justement fait remarquer que mais ça sert à quoi tes conneries, quoi. J'arrive à rester 6 minutes sans respirer, j'arrive à rester 20 minutes dans la glace. Oui, d'accord, mais enfin, ça sert à quoi, quoi? On s'en fout. C'est une perf, ouais, mais tu vois, t'es pas sportif de haut niveau, c'est à quoi bon? Et donc, j'ai constaté effectivement que j'utilisais ça comme un outil de performance, mais qu'il y avait peut-être d'autres sujets dans ma vie qui méritaient mon attention et plus urgemment, tu vois, notamment mon incapacité, pour le coup, à me sortir du taf. C'est-à-dire le fait d'être tout le temps… Moi, j'ai quand même 3 enfants en bas âge, j'ai une femme et tout, et mon cadre de référence a toujours été « oui, attends, bientôt, j'ai d'abord un projet à finir, j'ai d'abord tel truc sur lequel il faut que je finisse de bosser là, cette semaine ou ce mois-ci, et puis après, il y en a un nouveau. Et donc, bientôt, je pourrais profiter, bientôt, je pourrais le calmer, bientôt, je pourrais respirer, bientôt, je pourrais passer du temps en famille, mais juste, ça n'arrive jamais. » Parce que je suis pas capable de faire certains trucs qui autant tu vois me confronter à des obstacles. Alors j'avais besoin d'outils pour y aller plus fort, mais ça avait toujours été un petit peu mon driver, mon cadre de référence. Par contre, le truc sur lequel vraiment j'étais une tâche et je savais pas faire, et là ça devenait hyper évident, c'est la capacité à juste prendre soin de moi, de mes proches, m'ancrer plus dans la réalité, être plus centré sur l'instant présent, avoir plus de capacité à profiter de la vie alors qu'il reste des problèmes en suspens. Alors qu'il y a des merdes, pas me dire, c'est une fois que j'aurai résolu ces trucs-là que j'aurai le droit de vivre. Ben ça, c'était là, pour le coup, j'étais hyper démuni parce que je voyais même pas par où commencer à prendre le truc, quoi.
Bon. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi en coaching avec mes clients, c'est la capacité à cloisonner, en fin de compte, à passer d'une activité à une autre et à vivre cette activité en étant dans le moment présent. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que surtout, je comprends absolument ce que tu dis parce que je suis papa aussi de 4 garçons et c'est pas évident en fin de compte, surtout quand on est entrepreneur ou à son compte, de bien faire la différence, de prendre le temps avec ses enfants sans penser à son business. Et puis on se dit, on culpabilise après, on se dit, bah voilà, j'étais avec mes enfants, mais j'ai pensé à mon business et j'ai pas été proportion gardée sur ce moment-là, j'ai peut-être pas été à la hauteur en tant que papa. Et c'est vrai que cette capacité à cloisonner, à se dire bah, là c'est bon, je sors du boulot, je vais pourquoi pas me faire une préparation mentale dans la voiture en rentrant tranquillement, en visualisant un peu comment je vais arriver à la maison, comment je vais profiter de mes enfants pour se conditionner un petit peu. Ça peut être aussi une solution. Et toi, tu nous dis en fin de compte que avec cette approche-là, ça t'a aidé à mieux faire la différence?
Eh bien alors, oui et non. Parce que si tu veux, ce à quoi je me suis retrouvé confronté, c'est que paradoxalement, cette méthode, donc cette méthode Wim Hof, telle que moi après, la méthode Wim Hof, tu vois, c'est vraiment l'aspect santé, genre tu fais péter les niveaux d'énergie et tu es plus malade. Moi, je l'ai utilisé après parce que c'était mon cadre comme un outil de coaching mental et j'ai interprété, si tu veux, la notion de coaching mental et ce que je pouvais apporter aux gens et à moi-même comme étant plus de force mentale, genre juste plus de capacité à bourriner face à l'obstacle et à ne plus laisser
rien. C'est ce qu'il dit, pardon, couper Jeff, mais c'est ce qu'il dit lui. Wim Hof, en fait, il dit que le plus important, c'est d'être heureux en bonne santé. Le reste, on s'en fout. C'est un peu
c'est son moto, si tu veux. Pour lui, son moto vraiment, c'est la santé. C'est-à-dire que quand une fois que tu as la santé, après, tu vois, c'est cool, quoi. Tu étais plus heureux, tu es détendu, tout va bien, quoi. Et moi, je suis pas arrivé à cette méthode par un problème de santé. Beaucoup de gens, ils viennent pour ça. Parce que souvent, il faut quand même un gros driver pour te convaincre d'aller te mettre les fesses dans la glace tous les jours, quoi. Donc moi, j'avais pas ça et du coup, c'est tout de suite l'aspect mental qui m'a interpellé. Et donc, je m'en suis servi comme d'un outil de performance mentale au sens de capacité une fois de plus à abattre les obstacles et à pas me laisser déstabiliser. Et au bout d'un moment, quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que, alors, j'avais libéré des choses, mais j'avais un petit peu aggravé ma pathologie de départ, qui était je vis dans ma tête et dans mes projets, quoi. et c'est un projet après l'autre. Sauf que là, j'avais la capacité à emmener 10 de front au lieu de 2.
D'accord.
Mais du coup, j'avais encore moins de temps mental. Je dis pas seulement du temps physique, mais du temps mental disponible pour la famille parce que j'avais constamment 10 projets qui tournaient dans ma tête. Donc, j'étais tout le temps actif sur ce qui ne se passait pas ici et maintenant, mais genre dans le futur et quand j'aurais accompli ça et ça et ça dans ma to-do list, quoi. Et donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu enflammé au sens, tu vois, presque physiologique du terme, quoi. J'avais une inflammation mentale. Et donc, je me suis dit, tiens, donc cet outil, il est hyper génial. Il peut aussi mener à certains dérèglements. Donc, c'est comme tout dans la vie. J'ai sans doute un moyen de l'utiliser un peu plus intelligemment avec un peu plus de recul et de maturité que ça. Et qu'est-ce que je pourrais en faire? Et je me suis dit, quand je fais le bilan de là où je suis vraiment à la masse dans ma vie, donc cette capacité à être plus centré sur le présent, quand on parle de ça, de lâcher prise, de centration au présent, je comprends même pas de quoi on parle. Quand je vois des coachs qui me parlent de ça, j'ai l'impression que c'est lénifiant, que c'est mou, que c'est un truc de débile.
Les gens,
bisounours à la con. Donc vraiment, ça me donne envie de vomir. Donc j'ai toujours eu ce, bien qu'étant coach, j'ai toujours eu cette relation hyper ambivalente avec cette notion d'aller, souvent parce que aussi je vois des coachs complètement incompétents qui manient ces concepts vraiment comme une écrevisse manie une fourchette, si tu veux. C'est juste que, en gros, on va être mou, on va s'asseoir, on va se détendre et ça fait toujours du bien de parler de soi et de se calmer. Et j'étais pas parvenu à connecter vraiment avec ce qu'il pouvait y avoir derrière. Je me suis dit, tiens, peut-être que, vu que le froid a eu cette capacité à me faire comprendre des choses philosophiques par le côté sensoriel et hyper pragmatique et concret, comment ça pourrait peut-être me faire comprendre ces choses-là. Et j'ai commencé à utiliser le froid sur un mode complètement différent en disant, OK, le but du jeu, c'est pas rester 30 minutes dans la glace parce que ça me sert à rien, mais c'est peut-être pendant que je suis dans la glace, plutôt qu'être centré, hyper concentré, rien lâcher, est-ce que je pourrais pas arriver en plus à me détendre et à kiffer, et à être bien et à profiter? Et petit à petit, en changeant complètement la perspective mentale et la forme de discipline de perception que j'appliquais dans le froid, et puis dans mes techniques de respiration, j'ai découvert que oui, effectivement, l'outil pouvait. Alors là, j'en parle comme si c'était fait sur du velours. Alors là, vraiment, j'ai galéré. Hein. Là, c'est ce que j'ai décrit beaucoup dans le livre, le froid m'a sauvé. C'est à quel point, autant sur la première partie, parce qu'en fait, c'était mon énergie naturelle. Ah, l'outil était magique, c'était génial, je m'éclatais. Autant la deuxième, j'ai ramé, c'était l'enfer. J'ai pris des crises de panique, d'anxiété. Je me suis rendu compte, du coup, j'étais pas si encore émotionnellement stable et solide que ça, parce que dès qu'on sortait de ce qui était finalement ma zone de confort, quoi, l'inconfort physique, ça me gênait pas. Ben là, j'étais bien à poil. Ben là, ça a été un travail un peu plus dur, quoi, un vrai travail d'auto-coaching. Mais finalement relativement rapide aussi, parce qu'en l'espace d'un an, j'ai complètement transformé ma vie. Et aujourd'hui, le truc dont je suis le plus content, finalement, c'est que ce froid, je l'aborde maintenant de façon hyper sensorielle, que je prends du temps pour mes enfants, que mon business, j'ai accepté que c'était plus un marathon que genre un 100 mètres, et qu'aujourd'hui, du coup, au niveau business, j'ai quand même réussi en l'espace d'à peine un an de sortir mon livre, de devenir la référence en France sur la méthode Wim Hof. Mes stages marchent hyper bien partout, donc mon business roule hyper bien sans que je me mette autant de pression sur l'immédiat qu'avant, parce que j'ai plus de recul, je suis plus stratégique, je suis plus dans le 80-20, je combats un peu mon perfectionnisme, j'arrête de me noyer dans tous les détails de tout ce que je pourrais faire. Et là où ça, pour le coup, pendant 40 ans, on avait beau me le répéter et essayer de me le faire comprendre à coups de piolet et de marteau dans la tronche, c'était vraiment hermétique total. Et ben là, ça a ouvert une porte, parce que c'est vrai que dans le froid, si tu veux vraiment avoir une expérience, c'est étonnant de voir comme quelque chose qui est hyper anxiogène, qui est horrible, t'es objectivement, je prends toujours cet exemple, il y a plein de façons de pratiquer, hein, mais je prends toujours cet exemple du bain de glace parce que c'est le plus simple à comprendre. Quand t'es en slip dans un environnement qui peut être difficilement plus hostile, c'est-à-dire que tu es immergé jusqu'au cou dans de l'eau à 0 degré, donc ton corps sait que c'est un environnement de mort prochaine, promise d'ici quelques minutes, et que tu vois que si tu arrives à vraiment te centrer sur l'instant présent, de rentrer dans une forme méditative d'acceptation, de lâcher prise, donc désolé pour tous ces mots qui pour moi me suscitaient l'horreur avant, mais qui de facto j'ai compris ce qu'ils voulaient dire sensoriellement.
Je ne pensais pas que ça arriverait un jour.
Je pensais pas que j'en serais à dire ce genre de conneries un jour, mais là, ça y est, j'en suis. Et de sentir ce que c'est que le lâcher prise et la centration sur l'instant présent, et de sentir que quand tu es dans cette forme de lâcher prise et de centration, tu arrives à la perf, parce que tu arrives effectivement à rester longtemps dans la glace, bien détendu, et qu'en fait, en plus, ça se fait même pas sans avoir besoin d'être hyper concentré, mais au contraire, en étant genre en mode détente et cool. Et tu te dis, putain, oui, en fait, donc, la vie, ça peut être la performance, mais en étant cool, quoi. Pas en étant tout le temps en train de serrer les dents et de tout sacrifier pour achever des ambitions. Dès que tu l'as achevé, il y en a une deuxième qui débarque et qui dit, allez, un nouveau projet où pendant un an, j'arrête de respirer, je me bloque, je me ferme et juste, j'abats les trucs, quoi. Et donc, ben, ça a été extrêmement porteur d'enseignement pour moi, pour arriver à, voilà, reconnecter au fait que tu as le droit de vivre en même temps que tu es ambitieux, quoi. C'est pas juste un truc de gros loser. Ça va, prends soin de toi, sois cool, passe du temps avec ta famille.
Parce que ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est l'importance de la respiration par rapport à tout ça. Parce qu'en fin de compte, si on parle de… Alors là aussi, je te rejoins complètement, tous ces délires, un peu loi de l'attraction, méditation et tout ça, j'étais complètement… un peu comme toi, j'étais complètement opposé à ça. Et puis, en fin de compte, quand on pratique, notamment, moi, je pratique beaucoup respiration sous forme de cohérence cardiaque ou des méthodes similaires, mm-hmm. Box breathing, par exemple. Et le fait, justement, pendant ces moments-là, le fait d'essayer de faire le vide dans sa tête, en fin de compte, c'est un formidable outil de performance parce que ça procure un certain détachement par rapport aux résultats, aux objectifs qu'on peut se fixer en tant qu'entrepreneur en tant que père de famille ou dans d'autres disciplines, si on fait un peu de sport. C'est un super outil de performance, en fin de compte, parce qu'il y a un lâcher prise qui se fait, il y a un rapport au résultat qui est une perception du résultat qui change et une pression qui redescend et on est… Et justement, cette forme de respiration, elle est importante dans la méthode Wim Hof. On n'en a peut-être pas parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, il y a deux trucs dans ce que tu dis. Alors, sur l'aspect purement technique, la méthode Wim Hof, c'est pas qu'une méthode d'exposition au froid. C'est une méthode d'exposition au froid et de respiration. On va dire, voilà, ça utilise des effets synergiques et complémentaires d'un protocole respiratoire extrêmement précis, qui a rien de compliqué, mais qui est précis, particulier, avec les expositions au froid. Donc, la méthode Wim Hof, c'est de la respiration. Maintenant, sur le point que tu mentionnais, c'est le fait de quand, en fait, est-ce que c'est plus du froid, est-ce que c'est plus de la respiration, et comment ça nous amène vers la respiration, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve génial dans le froid, c'est que le froid, c'est la porte d'entrée. Mais la vraie valeur ajoutée, finalement, c'est la respiration. Le mécanisme, si tu veux, c'est que là où tu peux répéter à des gens comme moi, il y a quelques années, la respiration, c'est hyper important. Quand tu apprends à bien respirer, tu te centres, tu changes ton rapport à la performance, tu développes des capacités. J'ai oui, 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 mais j'écoute, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Parce que la respiration, c'est pas excitant. C'est pas excitant, c'est chiant, c'est mou, c'est plat, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant avec le froid, c'est que le froid, ça galvanise l'ego. Le froid extrême, c'est quelque chose que tu as envie de t'y confronter, tu as envie de te tester. Et tu te rends compte en fait que pour rester dans le froid, pour faire de la perf dans le froid, pour survivre au froid, ta seule arme, ton seul outil, le seul truc sur lequel tu peux te réfugier, c'est ta respiration. Donc, le froid t'oblige, il ne te laisse aucun choix, il t'oblige à constater ce que tout le monde te répète et que tu n'écoutes pas parce que tu es un mâle alpha qui veut faire des marathons et des courses et tu achètes des magazines sur le marathon, sur le mud racing, tu veux savoir, tu achètes les meilleures chaussures, tu pratiques toutes les techniques que tu peux de VO2 max, de machin, mais juste jamais tu accepteras qu'en apprenant à bien respirer au quotidien, ça va également avoir des impacts énormes. Mais là, le froid te laisse aucun choix et te montre que soit tu respires correctement et ça se passe hyper bien, soit tu n'es pas centré sur ta respiration et tu pars en panique, en crise d'anxiété, de tétanie et tu es obligé de sortir sous l'oppression de la douleur. Et donc, une fois que tu répètes ça suffisamment longtemps, au bout d'un moment, tu es obligé de te poser la question de dire quand même, c'est fou, la respiration, c'est quand même hyper puissant. Est-ce que je pourrais pas m'intéresser à d'autres formes respiratoires? Et petit à petit, tu en viens à explorer naturellement d'autres formes respiratoires et à constater que la respiration, ben, elle a la particularité d'être le seul mécanisme du corps humain qui est un mécanisme sur lequel tu peux agir consciemment alors qu'il est géré par le neuro-végétatif. Et donc, tu en viens à comprendre que en fait, la respiration, c'est la porte d'entrée entre ton corps et ton esprit parce que c'est la seule façon réelle qui existe d'influencer consciemment ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et par les boucles de rétroaction, de récupérer du fait d'un corps apaisé un esprit apaisé et petit à petit tu commences à t'intéresser à cette dynamique et sans faire rien de new age tu commences à t'intéresser à la physiologie, à la biologie, à comment marche réellement le corps, à comment marche réellement l'esprit et tu arrives à arrêter de te raconter ces comptines pour enfants mais qui sont pitoyables, les espèces d'images d'épinal qui cohabitent dans la tête de gens hyper pointus et exigeants intellectuellement dans leur business et l'image tellement enfantine et simplifiée qu'ils ont de comment marche leur corps et leur esprit et qui sont en train de martyriser leur esprit en pensant faire de la performance. Parce que tu te rends compte que si tu commences à t'intéresser à comment tu respires, à comment fonctionne ton corps, à qu'est-ce que sont que les cartes neurales, à comment fonctionne le système neurovégétatif, à qu'est-ce que c'est que le système endocrinien, en fait, c'est autant de portes hyper simples que tu n'as jamais ouvertes pour discipliner ton mental, faire de la perf, aller mieux dans ta vie, etc. Et tout ce que te répétaient tes grands-parents sur mange mieux, dors mieux, respire mieux, en fait, tu te rends compte que ce n'étaient pas des abrutis qui n'avaient rien compris, quoi. C'était, ils avaient tout bon, quoi. C'est, voilà, pour revenir à des trucs beaucoup plus simples, quoi.
Ils avaient tout bon. Sur le, ouais. Sur ta transformation, donc aujourd'hui, tu transmets ça, en fin de compte, en quelque sorte, à d'autres personnes, sous forme de stage, c'est ça. Donc, vous pouvez retrouver, tu me dis si je me trompe, mais sur le site icemind.fr, plus de détails sur le sur les déroulements de stage. Vous pouvez même vous inscrire directement en ligne. Et je vais bientôt le faire moi, hein, ça c'est sûr, parce que ayant testé les douches froides. Alors juste si ça peut vous motiver, on n'en a pas parlé, messieurs, je pense que tu confirmeras l'importance, le rôle de l'exposition au froid sur la production d'oxyde nitrique, sur la dilatation des vaisseaux sanguins et l'afflux des vaisseaux sanguins dans tout du sang. Dans tout le corps, mais aussi à des endroits où c'est bien aussi de temps en temps pour la performance d'avoir plus en gaz. Si tu vois ce que tu viens, voilà, si ça peut vous motiver, si tout ce qu'on vient de se dire ensemble ne vous motive pas encore, ouais, sachez qu'il y a d'autres performances qui peuvent être atteintes en tout bien, tout honneur, bien sûr. Voilà.
Exactement, voilà. C'est un système de musculation pour les capillaires, puisque sous l'effet du froid, les capillaires se rétractent, c'est la vasoconstriction très fort, et puis ensuite se dilatent, c'est comme le principe du sauna. Donc on fait de la musculation de tout le système cardiovasculaire, et donc avec tous les endroits où il y a des veines.
C'est ça, et puis des effets assez surprenants aussi. Des effets anti-inflammatoires qui sont démontrés de plus en plus par les recherches et par tout simplement les expériences, comme vous pouvez vivre avec JF. On va juste finir, si tu es d'accord, parce que c'est un peu le credo aussi de cette émission de l'homme en forme. Nous parler un petit peu de ton hygiène de vie globale, ton alimentation par exemple. Est-ce que tu suis une diète particulière ou est-ce que tu t'es composé ta propre diète, comme j'aime à encourager les personnes à faire?
Ouais. En fait, c'est-à-dire que c'est comme tout, c'est le doigt dans l'engrenage. À partir du moment où tu comprends à quel point prendre soin de son corps a des répercussions sur ton mental, ton énergie, ton niveau de bien-être au quotidien, je dirais que c'est un petit peu inéluctable de s'intéresser à ces sujets connexes. Et moi, après la méthode, en commençant à m'intéresser à la méthode Wim Hof, il y a d'autres choses qui ont changé, on va dire, dans mes routines. Là où avant, pareil, j'étais en mode beaucoup de muscu et de sport où j'allais me faire un peu mal, quoi, on va dire. J'ai pas mal rétro-pédalé par rapport à ça. Et aujourd'hui, dans ce qui a changé, c'est le premier truc, c'est l'alimentation. C'est-à-dire qu'en prenant en compte la notion d'inflammation et en regardant qu'est-ce qui crée des inflammations dans le corps, évidemment, au bout d'un moment, t'es obligé de te retrouver face à l'ennemi du sucre et des glucides. Et donc, moi, j'ai commencé à transformer un peu mon alimentation, à regarder ce qui me convenait. Et aujourd'hui, je vois que ce qui me va bien, moi, c'est de manger une fois par jour. Donc, j'ai arrêté les petits-déj, j'ai arrêté les déjeuners, et je mange le soir. Voilà. Je fais ça parce que je sens que ça laisse tout mon organisme se reposer le reste du temps. Je fais ça parce que j'ai la chance d'être indépendant. J'aurais peut-être pas la même approche si j'étais salarié, parce que c'est un petit peu ostracisant de pas manger avec ses collègues.
Ouais, pour le rapport social, etc.
Mais je trouve que quand t'es indépendant, le repas de midi, franchement, c'est plutôt, faut s'arrêter de faire ce que t'es en train de faire, faut arrêter de bosser, faut préparer la tambouille, après faut laver les trucs. Enfin, c'est juste une pénibilité. Donc, moi, j'observe ça. Et dans mon alimentation, je sais que moi, j'aime bien manger beaucoup. Donc, je garde le fait de manger beaucoup. Mais simplement, je mange énormément de crudités, de légumes, de viande, de poisson. Et j'ai viré les féculents, le pain, de mes repas. sans être ayatollah pour autant, puisque je sais que, par exemple, l'été arrivant, ça va être la saison des apéros, ça va être le feu, les machins. Donc, je sais que je vais faire un milliard d'excès, que je vais pas respecter mes principes, mais au final, le fait de manger une fois par jour le soir, c'est que je garde le repas social, celui en famille et entre amis. Je sais que je vais pouvoir faire des apéros ou quoi. Derrière, j'aurai 24 heures pour laisser mon organisme récupérer, se nettoyer. Et donc, je sens que mes niveaux d'énergie, en passant voilà dans une alimentation un peu cétogène, pas réellement cétogène, mais un petit peu cétogène et avec du jeûne intermittent, finalement, ben, j'ai plus de... En fait, c'est l'énergie. L'énergie est constante, quoi.
Ouais, on est dans la même. On est dans la même. On se rejoint complètement. C'est aussi mon lifestyle au niveau de la diète. C'est alors peut-être pas le one meal a day là, donc un repas par jour. Ça, moi, je le fais de manière cyclique. C'est vraiment quand j'ai envie. Et c'est surtout beaucoup de jeûne intermittent où je laisse minimum 12 heures. Vraiment minimum 12 heures entre le dernier, le dîner et le repas d'après. Le repas du lendemain, et c'est en général 16 à 18 heures. Et c'est vrai que, alors, il faudra faire une émission et on en fera là-dessus. Et je vous promets, tous les bienfaits du jeûne intermittent par rapport à sécrétion de certaines hormones, par rapport à la détox naturelle, on pourrait passer des heures à en parler. Et c'est un vrai bonheur. Il y a aussi un bouquin qui a été écrit il y a quelques années maintenant. Le nom de l'auteur m'échappe, mais je pense pas qu'il était traduit en français. C'est la Warrior Diet, donc la diète du guerrier. Je ne sais pas si tu as lu ce livre, JF, mais il explique voilà, tous les bienfaits de manger une fois par jour. Il fait un rapprochement avec les guerriers d'antan qui passaient leur journée en fait en mode warrior, en mode guerrier. Et puis le soir, ils faisaient des festins. Donc, c'est un petit peu, ça peut, aujourd'hui, l'homme moderne peut agir comme ça, où il va développer toute sa journée, passer sa journée en mode guerrier pour son business, son entreprise, sa famille, etc. Et puis le soir, il va festoyer avec ses proches, les gens qui viennent, parce que le rapport aussi avec les gens qu'on aime est important dans le
jeu. Disons que ça rejoint un point que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est très, très compliqué aujourd'hui de savoir sur quel pied danser face à la surabondance d'informations. Et bien sûr, il y a bien un sujet sur lequel personne n'est d'accord, c'est l'alimentation et puis plus généralement la santé, etc. Il faut faire ci ou faire ça. Et le fait de courir comme un poulet sans tête d'une diète à l'autre, d'une mode à l'autre en termes de sport ou autre, c'est, on a besoin de points de repère. Moi, je sais que le point de repère qui m'aide, parce que c'est mon cas d'être un nerd, un peu naturel, etc., c'est de dire, OK, si on revient aux bases, des bases, aux principes premiers, hein, comme le dit Elon Musk, c'est d'un point de vue scientifique, quels sont les quelques trucs dont au moins on est sûr. Et c'est vrai que, après, c'est peut-être pas la perspective de tout le monde, parce qu'il peut y avoir des religieux parmi les gens qui nous écoutent, mais enfin, moi, c'est pas du tout mon cas, et donc je suis un fervent partisan de juste considérer là, au moins, la théorie de l'évolution comme quelque chose de une bonne base sur laquelle s'appuyer. Et donc, en regardant, a priori, pour quel genre de challenge nos organismes sont-ils bien équipés? Et c'est vrai que l'exposition au froid et le fait d'être soumis à des changements climatiques, on a des ressources pour faire ça. Le fait de ne pas être certain de s'alimenter à heure fixe toutes les 4 heures, etc., on a des organismes qui n'ont pas du tout évolué pour faire ça. Donc, ils sont très mal adaptés à une diète qui nous oblige à manger toutes les 6 heures, à réinjecter du sucre, des pics d'insulinémie. Donc, simplement, en reprenant, on a des corps qui sont hérités du Pléistocène, les cerveaux, c'est pareil. Et ce qu'on fait avec la méthode, le fait d'aller rechercher des pics de stress intense et extrême, mais ponctuels, avant de retourner à des vraies périodes de calme, le fait d'avoir des périodes où on ne mange pas avant d'avoir des périodes où on mange, le fait de pas s'alimenter constamment avec de la bouffe transformée et du sucre alors qu'on n'en trouvait pas dans la nature à l'époque-là. Et le truc le plus sucré sur lequel on pouvait mettre le doigt quand on avait un gros coup de bol la semaine miroir, c'était le carnaval, c'était une carotte, quoi, en gros. On a des organismes qui sont pas, donc on est fait pour dormir à certains horaires parce que notre production de mélatonine, notre production de sérotonine, elles sont conditionnées par le calendrier. Donc essayer de respecter, en fait, c'est arrêter un petit peu avec le côté l'homme, oui, est capable, industriellement parlant, de s'affranchir de la nature et de créer plein de trucs, des monstruosités au sens de absolument extraordinaires, mais qui ont aussi des limites. Mais revenir à plus d'humilité et accepter qu'on est des animaux, qu'on a une part physiologique, que c'est pas laid, que c'est pas grave, que ça enlève pas toute la superbe de nos capacités intellectuelles, mais simplement, on a aussi un ancrage dans un corps qui est notre attachement à la nature et à la science, quoi, de la vie. Et respecter un petit peu plus nos corps au sens de ils sont faits pour quoi et pour quel genre de rythme, pour quel genre d'alimentation et ça, ben je trouve que ça, on peut pas vraiment se planter, quoi. Après, on adapte en fonction de son terrain, de des particularités parce que on est chacun. Mais je trouve que commencer à dire aux gens d'essayer de réfléchir plutôt que juste il y a une méthode qui est sortie, on l'adopte, et puis le jour où il y a quelqu'un qui dit oh, en fait elle marche pas, on panique et on se dit merde, ça fait 2 ans que je me flingue le corps. Juste essayer d'avoir quelques principes de base qui s'ancrent dans une notion, 2-3 notions scientifiques démontrables, et à partir de là vous êtes sûr que vous pouvez investir du temps et de l'énergie dans la recherche de ces trucs là parce qu'a priori ça va pas être des trucs trop cons. Et ça, je trouve ça plutôt sain, autonomisant, simple, quoi.
Je rejoins complètement. Si tu es d'accord, on va finir sur ces excellentes paroles. Donc, il y a des principes physiologiques qui sont incontournables, mais derrière, à vous de trouver votre style de vie, en fin de compte. À vous de trouver votre style de vie. Vous pouvez vous faire aider par des coachs compétents, par vos propres ressources. Aujourd'hui, il y a un nombre d'informations qui sont quand même accessibles. Mais à vous de faire votre propre expérience, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Évitez bien sûr des principes physiologiques comme tu dis, JF, ou le fait de manger 5 fois par jour, c'est complètement, voilà, on en reparlera mais c'est une idée reçue et un mythe qui est en train de tomber grâce à l'information aussi qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Et puis le fait de si on retient aujourd'hui quelque chose, c'est qu'on a des ressources. On a des ressources en nous qui sont inexploitées parce que on a grandi sous des perceptions. On nous a ancrés, on s'est même ancré en nous-mêmes des perceptions qui nous limitent, enfin. Et grâce à JF et d'autres personnes, et j'espère grâce à cette émission, on va faire un petit peu faire sauter tout ça pour que vous puissiez aussi vous découvrir, découvrir vos capacités et en fin de compte vivre avec le style de vie, le corps, l'énergie et la vitalité que vous avez envie et que vous avez besoin aussi pour bien performer tous les jours et aussi pour vivre longtemps, parce que c'est important là-dessus. JF, merci infiniment. Je rappelle juste, si vous voulez plus d'infos sur les stages que met en place Jean-François, donc rendez-vous sur le site icemind.fr, icemind.fr. Je vous invite aussi à acheter un œil sur son livre, donc vous pouvez vous le procurer, il est disponible aux éditions Larousse. C'est Le froid m'a sauvé. Jeff, merci beaucoup pour ton intervention. Une dernière chose après, que vous partagez avec nous.
Écoutez, moi je vous encouragerais à aller tenter le truc, surtout en ce moment, elle n'est pas si froide que ça. Allez vous faire une douche froide en respirant calmement. Tout ça, et constater l'écart hallucinant qu'il y a entre la projection que vous vous faites d'à quel point ça va être désagréable et à quel point ça peut être juste très très simple une fois qu'on observe ces quelques principes de base de se relâcher musculairement et respirer. Et c'est un bon enseignement pour le reste de la vie.
Super, merci beaucoup. Et je suis sûr que ce podcast ne vous a pas laissé de glace. Elle était facile, mais il fallait que je la fasse.
On ne pourrait pas s'en empêcher de celle-là.
Ah, je ne peux pas. Et merci beaucoup, Jeff. À très bientôt. Et je te dis à très vite. Et merci d'avoir partagé ton expérience, peut-être dévoilée et mise tout nu, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Et je te dis à très vite.
Merci. Salut.
Bye bye.
Ciao, Ashraf.